Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Pèse sur Start. Mon nom est Cathy, je suis en compagnie de Christine Lemu.
Hello!
Et de Raphaël Lavoie.
Salut, salut!
Comment ça va vous deux?
Ça va bien, toi?
Ça va bien.
Ouais, c'est vendredi!
Hey!
Grosse semaine, pareil. Bon, la claque de Will Smith, c'est encore de ça que tout le monde parle.
Ouais.
Oui, c'est vraiment la semaine de la claque.
Écoute... C'est quelque chose, hein? Ça a brassé les gens.
Oh là là. Ouais. Écoute, on voit notre entrain et notre, comment je dirais bien ça, notre appétit pour le sujet, là, de la manière qu'on en parle 5-6 jours plus tard. Là, on est comme tout un peu... Ouais, la claque, hein? Ouais. Ça parle encore de la claque, ouais. En tout cas.
En fait, cette semaine, moi, je vais écouter WrestleMania, fait que ça va être plus de claques qui va se donner là-dedans.
Oui, oui, oui. La claque à la minute va être plus satisfaisante.
Hein. Yes!
Oui, c'est ça. Ça me fait penser à l'événement qui s'était passé au Super Bowl quand Janet Jackson s'est fait dénuder par Justin Timberlake. Ça me fait penser à ça, tu sais. C'est comme un événement où est-ce que tout le monde en parlait, tu sais.
Ben puis, oui, écoute, plus personne.
C'était elle qui avait dû s'exprimer.
Après ça, non?
Oui, c'est ça, personne parlait du match, mais tu sais, en plus, c'est elle qu'il fallait qu'il s'excuse, tandis que c'était Justin Timberlake qui avait fait la chose.
Ouais, ben c'est oui. Ça.
C'est ridicule.
Complètement ridicule.
Voilà.
Mais c'est des choses qui se passent en direct. C'est tout le temps fascinant, la télé en direct, mais peut-être que les Oscars vont enfin repenser leur format de merde.
S'il vous plaît.
Oh, c'est dit.
Oh, c'est dit. Je quasi n'aime pas les Oscars. J'aime pas ça. Mais quelque chose que j'aime par contre, c'est Kirby. On va en parler avec la niche à l'EMU. Avez-vous aimé mon segue?
C'était direct.
Je vais passer dans le vif du sujet. Christine, je regarde Kirby depuis, là, ça fait une semaine qu'il est sorti. Je regarde dans le e-shop, puis je me dis tout le temps, oh, je veux pas dépenser de l'argent, c'est cher, pas encore reçu mon retour d'impôt. Tu sais, comme comment justifier ce montant-là quand, tu sais, c'est pas super long apparemment comme jeu. Mais toi, t'as vraiment aimé ça, Kirby and the Forgotten Land.
Oh.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu, puis essaye de nous convaincre de l'acheter.
Écoute, je vais te convaincre de l'acheter, ça c'est certain. Parce que c'est vraiment un jeu qui était une source de réconfort pour moi. On le sait, là, quand on commence à jouer à Kirby, c'est impossible de pas sourire. C'est une petite boule rose qui nous suit depuis très longtemps déjà. Puis bon, qui revient ce mois-ci avec un nouveau jeu en 3D qui a pour but d'égayer notre journée. Et c'est mission accomplie pour Nintendo et HAL Laboratory. Pour vrai, cherchez pas de défis à la Soulsborne. On vous parlera pas d'Elden Ring cette semaine. C'est vraiment un tout autre registre et c'est tant mieux. Parce que Kirby a un seul but dans sa vie, hein, et c'est de nous rendre heureux. Je ne connais personne qui dit « Ouais, Kirby m'énerve. » Non. Cette personne-là, genre, elle doit avoir des petits bobos quelque part parce que tu peux pas genre détester Kirby. c'est impossible. Donc,
non,
à part Kirby's Adventure sur NES, je pense que c'est impossible de rager contre un jeu de la franchise. Et avec Kirby's Forgotten Land, encore une fois, c'est un jeu qui réinvente pas la roue, mais qui fait du bien. Genre, c'est un peu comme revenir dans ses vieilles pantoufles. Là. Puis, des fois, c'est ce qu'on a besoin aussi. J'ai pensé à 5 raisons là qui fait que faudrait peut-être acheter Kirby, l'ajouter à votre librairie. Puis je pense que c'est le jeu vraiment qu'on a besoin en ce moment. Donc d'abord, quand on joue à Kirby, on oublie tout autour de soi. On rentre dans un jeu dans lequel on oublie tous ses tracas, on oublie tous les soucis de la journée. C'est un jeu qui a été développé de telle sorte qu'on soit englouti. Englouti dans la joie, les couleurs, la musique joyeuse. C'est vraiment un jeu idéal à jouer après une mauvaise journée au bureau ou à l'école. Là, c'est vraiment un jeu qui fait oublier les soucis du quotidien. Le jeu est facile, donc c'est vraiment un jeu qui est très facile et il existe un mode encore plus facile. Donc c'est vraiment un jeu qui tu te casses pas vraiment la tête avec des énigmes cryptiques puis des quêtes qui vont t'amener à l'autre côté de la planète là. Non, c'est Kirby, c'est un jeu qui amène des tableaux simples sans tomber dans l'ennui. C'est un jeu que malgré la facilité offre quand même beaucoup de défis puis qu'on sent quand même qu'on travaille un peu malgré tout. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, dans Forgotten Land, c'est que c'est un jeu qui est très accessible pour les plus jeunes, ou même les plus vieux, hein, ceux qui sont moins habiles de la manette. C'est vraiment un jeu qui est super accessible, parfait pour toute la famille, que ça soit un jeune de 4 ans qui commence à jouer à des jeux vidéo, comme ça soit notre père qui a 72 ans, puis que t'as envie de l'introduire à Kirby parce que Il y a l'humeur morose, puis il me semble que ça le rendrait plus heureux. Donc, c'est vraiment un jeu super accessible, vraiment le fun, et très facile. Pour vrai, cherchez pas à avoir des gros défis, c'est vraiment un jeu très facile.
Y a-t-il beaucoup de lectures dans le jeu?
Non, vraiment pas. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vraiment des petites phrases courtes, donc c'est parfait là pour les enfants qui commencent à lire ou les enfants qui lisent déjà un peu puis qui veulent vraiment que tu sais on passe à l'action rapidement. Mm-hmm. Faut pas oublier que tu sais Kirby se savoure bien seul mais ça savoure bien aussi en coop. Donc c'est un jeu qu'on peut jouer à deux qui est parfait pour jouer avec des enfants qui va être une belle introduction au jeu de plateforme. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des mini-jeux à même Kirby qui vont amener un peu de compétition là entre les joueurs. Donc, tu sais, c'est pas des mini-jeux qui sont ultra développés là. On parle ici de un peu comme à la Burger Time ou tu sais les jeux de mobile où est-ce qu'il faut que tu fasses des commandes de restaurant là. Il y a un jeu du genre où il y a même un jeu de pêche, tu sais. Je sais que tu vas perdre ton temps là-dedans, Kaz.
Yes.
Et donc c'est ça, c'est vraiment genre c'est un beau jeu à partager, tu sais, en père et fils, fille, peu importe là, mère, peu importe là, ça va vraiment être un super beau jeu à partager en famille. Puis ce qui est le fun en plus, c'est que la musique amène un niveau de plus là dans le bonheur. Pour vrai, c'est vraiment un jeu qui est axé sur le bonheur. Je vous dis, c'est impossible de sortir fâché là après avoir joué à Kirby. La bande sonore du jeu, il y a aucune chanson qui tape sur les nerfs. Je me suis même surprise hier en train de jouer à un niveau qui avait une musique que j'étais comme vraiment surprise du ton de la musique qui ont pris, qui est un peu jazzy, hip-hop, techno, c'est vraiment cool pour vrai. Puis je me suis prise comme j'ai mis pause puis je dansais parce que pour moi c'est vraiment le fun comme musique. Puis j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils écoutent la musique quand ils travaillent là, parce que c'est pimpant, ça amène l'énergie là. Fait que
parce que la musique Kirby des fois elle peut tomber ses nerfs.
Ouais,
on va se le dire. Là.
Oui.
Là, j'ai une toune précisément dans la tête en ce moment puis elle me gosse là.
Je le sais. Ben dans celle-là il y a tellement de variété que les chansons sont quand même longues ou est-ce qu'ils vont se répéter mais ça va être long avant qu'ils se répètent. Fait que c'est vraiment plaisant là quand on joue dans les tableaux puis que les musiques même changent à même les tableaux où est-ce que t'es rendu dans le niveau du tableau là. Et pour finir, bien sûr, le design des niveaux est très varié. T'sais, même si c'est simple comme jeu, ils ont réussi à faire quelque chose de varié là, dans les plateformes. Donc, d'avoir des énigmes ici là, avec les modes mouthful. Donc, où est-ce que ton oui. personnage prend possession de un objet ou se remplit d'eau là, ça rend vraiment le design des tableaux très différent. C'est sûr que c'est pas ambitieux comme un Mario Odyssey là, on est loin de là, ça fait que les mécaniques et la jouabilité, tu sais, rendent le jeu quand même accrocheur. Donc ça va être, c'est vraiment un nouveau style de jeu vraiment sympathique et très intéressant. Donc, Kirby est vraiment un plaisir à jouer. Les dizaines de pouvoirs qu'on peut même upgrader, là, donc qu'on peut ouais. Renforcer, font que ça change un peu la dynamique. C'est sûr que l'accent est mis aussi sur les objets à collectionner, sur les énigmes et différents défis mystères qui se retrouvent dans chaque tableau qu'on peut débloquer. Mais est-ce que c'est un jeu qui vaut le 80$? Malheureusement, non. Parce que l'histoire est courte, parce que probablement c'est ça, le jeu est très facile à faire. Je ne pense pas qu'il vaut 80$, mais il vaut sa place quand même dans la ludothèque. C'est sûr qu'on va vous conseiller d'attendre les rabais hein, qui s'en viennent peut-être bientôt, mais c'est ça. On conseille quand même d'attendre que le jeu tombe en solde, mais c'est un très très beau jeu à essayer en famille. Si vous voulez cotiser en fait même pour une copie puis la prêter entre vous, entre vos cousins, entre vos frères et sœurs, peu importe, ben pourquoi pas, tu sais, vous pouvez le faire, mais de l'acheter plein prix, j'ai un peu de misère à mettre le 80$ là-dessus.
Mais tu vois, c'est pour ça que je vais pas le faire.
Voilà.
Je vais attendre qu'il tombe en rabais dans 5 ans.
Oh non! Il va tomber en rabais cet été, je suis certaine, là.
Oui, parce que c'est pas un Mario, c'est pas un Mario, fait que
exactement.
Ouais, peut-être.
Ben oui, c'est
oui,
ça.
Il va tomber en rabais à 55$. Là,
exact. À 50, ça vaut. 50, c'est correct. 50. Mais tu sais, sinon, 50, puis demande une carte cadeau pour ton anniversaire, puis là, ça va valoir la peine.
C'est vrai, c'est ma fête très bientôt.
Voilà. Voilà.
Merci beaucoup, Christine. Merci. On va y penser. On va y penser.
Ben oui, pensez-y. Mais c'est vraiment un petit baume, là. Si vous avez une journée vraiment où est-ce que vous êtes fait écœurer, vous êtes triste ou juste comme, mais c'était pas une super belle journée. Y jouer, c'est un petit baume, là. C'est vraiment un petit baume.
Mais tu vois, ça, c'est un argument très convaincant, je trouve. Parce que les temps sont durs, hein, oui. Quand même, là.
Oui.
Les temps sont durs.
Les temps sont durs.
Merci beaucoup, Christine. On va maintenant jaser avec Raph de deux choses fascinantes. Ben, premièrement, les nouveaux abonnements de PS Plus. Donc, on passe à la chronique Pas de nom. Raph, on attendait des nouvelles de Sony depuis longtemps concernant un genre de rival à la Game Pass de Xbox de Microsoft. Finalement, on a eu une genre de réponse, on a eu une genre de confirmation après des mois et des mois de rumeurs.
Oui, ben oui. Écoute, certains surnommaient ce service-là dans les rumeurs Spartacus, le fameux projet Spartacus de Sony.
Oui, puis après ça, c'était Neo aussi après.
Oui, il y avait eu PlayStation Neo aussi. Eh bien, surprise, ça va s'appeler PlayStation Plus. Ah, on s'en doutait pas. Blague à part, en fait, ce qu'il faut retenir, en fait, de la refonte de PlayStation Plus, parce que c'est une refonte, c'est que c'est, en quelque sorte, une fusion qu'on fait entre deux services existants de Sony, c'est-à-dire évidemment PlayStation Plus et PlayStation Now, qui est l'espèce de Game Pass existante du côté de PlayStation, Game Pass entre guillemets. Donc, bref, oui, c'est mardi dernier là, que Sony a présenté la refonte de son service PlayStation Plus. Grosse nouveauté, c'est que désormais, le PlayStation Plus va être séparé en trois paliers, en fait. Trois abonnements, donc trois prix différents. Le premier abonnement, qui est PlayStation Plus essentiel, va être essentiellement, sans faire de mauvais jeu de mots, ce qu'est PlayStation Plus en ce moment. Donc, des jeux téléchargeables chaque mois, des rabais réservés aux membres PlayStation Plus, le stockage dans le cloud des sauvegardes de jeux, et l'accès aux multijoueurs en ligne. Donc, pour le moment, on n'a pas de prix canadien. On essaye fort depuis quelques jours de mettre la main sur les fameux prix canadiens. On ne les a pas encore. Mais si on se fie aux prix aux États-Unis, on devrait payer sensiblement la même chose que le PlayStation Plus standard en ce moment pour l'abonnement essentiel.
Est-ce que ça comprend PlayStation Hits, ça, ou c'est juste une affaire de PS5, PS4?
PlayStation Hits, là? Oui, la PlayStation Plus Collection, si ma mémoire est bonne. Ça va contenir ça aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'est le PlayStation Plus en ce moment. Si vous ne voulez pas nécessairement de nouveautés sur ce plan-là, que vous voulez garder l'accès aux multijoueurs en ligne, les jeux gratuits chaque mois. Là, on parle de deux jeux téléchargeables gratuits chaque mois. En ce moment, on en donne trois du côté de PlayStation. Fait que c'est à suivre quelle base ça va prendre, mais on est en deux aussi générations. Donc, pendant un moment, on se rappelle des jeux PlayStation 3 et PlayStation 4. Il y en avait quatre. À peu près 4-5 par mois, puis là, on avait coupé pour juste donner des jeux de PS4. On avait baissé le nombre de jeux qu'on donnait, donc on peut peut-être attendre à quelque chose de similaire dans les prochains mois, la prochaine année. Ensuite, il y a deux autres tiers, donc il y a PlayStation Plus Extra, un petit peu plus dispendieux. Je pourrais vous dire les prix américains, mais ça ne voudra pas dire grand-chose, là, parce qu'on ne connaît pas les prix canadiens encore. Pour vous donner une idée, écoutez, le Essential, qui est le premier tiers, on parle de 10 US par mois. Là, on tombe à 14,99, donc 15 US par mois. Donc, à peu près 50% plus cher. Donc, ça reprend les bénéfices de PlayStation Plus essentiels et ça ajoute en prime un catalogue d'environ 400 jeux PS4, PS5 qui vont pouvoir être téléchargeables, en fait. Donc, une partie du catalogue de PlayStation Now, de ce qu'on comprend, qui va être intégré à PlayStation Plus. Et un troisième tiers, on parle de 17,99 US par mois, donc encore plus cher. Reste à voir au Canada, ça va être quoi? Qui va regrouper les avantages de PlayStation Plus Essentiel, PlayStation Plus Extra. Et on ajoute 340 jeux supplémentaires, donc des titres PS3, PS1, PS2, PSP qui vont être offerts en streaming ou en téléchargement, sauf PS3, que là, c'est uniquement en streaming. Ça ressemble à ça. On ajoute aussi des versions d'essai à durée limitée, donc des démos de certains jeux qui vont être accessibles sur ce palier-là. Donc, essentiellement, le troisième palier ajoute des jeux rétro, on pourrait dire, entre guillemets, là, donc ouais. PS1, PS2, PS3. Gros changement par rapport à PS Now, qui est là actuellement, qui est un des deux services de Sony, c'est que là, il va y avoir des jeux PS1 et PS2 et des jeux PSP, parce que il y a déjà des jeux PS3 et PS4 sur PS Now. Donc, en fait, c'est peut-être pas le gros service qui va tout casser, qui va venir vraiment rivaliser avec la Game Pass, parce qu'en fait, écoutez, on vient fusionner PlayStation Plus et PlayStation Now, c'est un peu ça. C'est pas dit de façon explicite dans le sens qu'on ne dit pas ça va être exactement le même catalogue que PS Now qui va être ajouté à cette refonte de PS Plus-là. Sauf que, on peut en douter et quiconque connaît le catalogue PlayStation Now, très peu de nouveautés, c'est beaucoup des jeux un peu plus vieux. Il y a la question aussi PS1, PS2, déjà des jeux qui sont adaptés, pour la PS4 à l'époque, là, des succès de l'époque qui sont, qui ont comme été émulés là, sur PS4, on pourrait dire. Donc, est-ce que ces jeux-là, ce catalogue-là qui va être rendu disponible à travers ce nouveau service-là, est-ce qu'on va en ajouter d'autres portages, en fait, là, d'autres émulations? Donc, ça, c'est à suivre. Et la grosse différence, je dirais, finalement, entre cette refonte-là de PS Plus et la Xbox Game Pass, c'est que Sony ont annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveautés déposées dès le jour 1 sur PlayStation Plus. Donc, si vous attendez à avoir, par exemple, un nouveau God of War, ce ne sera pas là, dès le jour 1. Ce sera peut-être
c'est ça,
ajouté.
C'est
pas
des day one.
C'est ça, exactement. Pour vous donner une idée, bon, ce qu'on a sorti comme gros canon de ce nouveau service-là dans le catalogue qui va être offert sur demande, eh bien, c'est Death Stranding, le premier God of War, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Donc oui, des jeux quand même assez récents, mais non plus, c'est pas un sine qua non. Si c'est développé par PlayStation Studios, ça va être sur PlayStation Plus, comme c'est le cas sur le Game Pass. Là, c'est pas la même situation. On pourra comparer qu'on aura les prix au Canada, là, j'imagine, dans quelques jours. Mais c'est sûr que pour l'instant... si vous avez PlayStation Now, si vous avez PlayStation Plus, ben tant mieux. Vous n'aurez pas à payer pour deux services. Ça va être possiblement à peu près le même prix, mais rassemblé dans un seul abonnement. Et si vous êtes un peu nostalgique, ben il va y avoir des jeux PS1, PS2, PSP qui vont être ajoutés à cette offre-là. Mais pour l'instant, bon, est-ce que c'est le tueur de Game Pass dont les rumeurs parlaient? Peut-être pas.
Mais là, mettons que moi, justement, t'as donné l'exemple. Mettons que je suis membre PS Plus, puis je suis membre PS Now, mettons séparément, parce que c'est deux abonnements séparés en ce moment. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont merger ensemble pour devenir le pack du milieu?
Ben, j'imagine, ça n'a pas été complètement précisé, là. Il y a eu des courriels qui ont été envoyés aux membres individuels. Par exemple, moi, bon, je suis membre PS Plus, j'ai reçu un courriel pour dire mon abonnement allait être transféré éventuellement en abonnement PlayStation Plus essentiel, vu que c'était le même palier, en fait, puis qu'il n'y aurait pas de coûts supplémentaires, pas de remboursement. Bon, c'est la même chose. Là, par contre, c'est une bonne question. Je pourrais pas te répondre, mais quand on va avoir les prix canadiens, mon petit doute, c'est que le tiers du milieu, en fait, le PlayStation Plus Extra, d'après moi, ça va être le prix de PlayStation Now et PS Plus combinés ensemble, possiblement, ou à la limite, peut-être l'abonnement premium. Ça risque d'être quelque chose du genre, mais je peux pas répondre à ta question.
Puis là, c'est peut-être une autre question à laquelle tu peux pas répondre, mais PS Now, dans le fond, si je suis pas est-ce qu'il faut être abonné à PS Plus pour être abonné à PS Now en général, ou je peux juste m'abonner à PS Now dans la vie?
Non, tu peux t'abonner juste à PS Now en ce moment. Donc,
je sais pas si ça va rester possible.
Non, je pense pas, parce qu'en fait, PlayStation Now va disparaître là, avec l'arrivée de cette refonte de PlayStation Plus-là. Donc, en fait, si vous voulez PlayStation Now, ben vous n'aurez comme pas le choix de vous abonner aussi à PlayStation Plus par la bande. Bon, là, je l'ai répété à peu près 15 fois depuis le début de la chronique, on n'a pas les prix canadiens. Si on regarde les prix américains... Ben, c'est ça. On peut se douter que il va peut-être avoir une petite économie d'échelle si vous avez les deux services, là, PlayStation Plus Extra, en fait, qui est 15 US. Donc, je pense pas que PlayStation Now, j'ai pas vérifié les prix comme tel, mais je pense pas que PlayStation Now et PlayStation Plus en ce moment, ensemble, ça coûte 15 US. Ça doit être un petit peu plus dispendieux. Sauf que ce palier-là, vous aurez pas les jeux PS3 qu'en ce moment, PS Now ont. C'est-à-dire PS3, PS4 et quelques titres PS5. Donc, en tout cas, on rejoue les cartes. On rebrasse les cartes. Et bon, ça reste que c'est pas une immense nouveauté non plus. C'est un service qui peut évoluer, remarquez, là, au cours des prochaines années, mais c'est certain qu'il y avait des rumeurs qui disaient peut-être que ce service-là va amener la rétrocompatibilité sur PS5 de toutes les générations précédentes de PlayStation, où est-ce que vous allez mettre votre disque dans le lecteur, va avoir comme une espèce de DRM qui va être validé quelque part, puis vous allez pouvoir jouer à votre jeu en streaming. Il y avait eu des rumeurs comme ça et compagnie. Ben, c'est pas révolutionnaire comme ça. C'est PS Now, c'est PS Plus qui devient PS Plus Extra, et compagnie ensemble. Donc, bref, écoutez, personnellement, je suis pas déçu, mais je suis pas enthousiasmé non plus. C'est du même et du pareil.
C'est comme neutre.
Ben, c'est ça. Quand on aura les prix au Canada, on pourra se faire une meilleure idée, mais pour le moment, ben, c'est correct. Mais en contrepartie, est-ce que c'est le gros coup de pouce qu'avait besoin PlayStation ces jours-ci? Bon, PlayStation qui se fait de plus en plus pousser dans le dos par Xbox, est-ce que c'était l'électrochoc pour ramener des gens au bercail? Ben, peut-être pas. La vérité, c'est que c'est peut-être pas ça, parce que c'est un peu la même chose. On joue sur les mots, tu sais. Fait que, tu sais, il va y avoir quelques titres supplémentaires qui ne sont pas accessibles pour le moment. Ben écoute, je vais être super cynique puis dire, pensez-vous vraiment que Death Stranding sur un service de streaming va amener le monde par troupeau chez Sony? Ben, je pense pas. C'est plate. C'est ça.
Effectivement, Death Stranding, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on sait que bon, Kojima Productions puis Sony, c'est comme une belle grande relation.
Ouais, ouais. Puis écoute, moi je trouve ça vraiment correct. Puis tu sais, à la limite, je comprends Sony parce que les exclusivités de PlayStation Studios en ce moment, ça se vend comme des petits pains chauds. Ça s'écoule hyper facilement. Donc je comprends que on n'ajoute pas nécessairement au service tout de suite les jeux qui se vendent indépendamment. Puis qu'on se dit, bon, on va ajouter un Returnal qui est peut-être un petit peu plus de niche et que les gens vont aimer découvrir dans un service comme ça, mais ne payeront pas nécessairement pour le jeu comme tel. Je comprends la stratégie, mais c'est pas une offre nécessairement irrésistible et c'est peut-être pas quelque chose qui, pour des gens qui sont un peu sur la clôture, comme on dirait en bon français, entre Xbox et PlayStation pour cette génération aussi, de tomber du côté du camp de Sony.
On verra. Oui, c'est ça, on va voir. C'est quand qu'on va avoir plus de détails sur cette belle refonte-là?
Ben en fait, ça va commencer à être lancé en juin prochain, d'abord en Asie, ensuite progressivement en Amérique du Nord, en Europe, puis dans le reste du monde. Sauf qu'on dit que la transition devrait être effectuée à la fin du premier semestre 2022. Puis la fin de ce premier semestre-là, ben, c'est la fin du mois de juin. Donc, dites-vous qu'à quelque part dans le mois de juin, à peu près tout le monde va y passer, puis le service va être transféré officiellement sur le nouveau modèle. Et au niveau des détails supplémentaires, bon, on parlait de à l'approche du lancement. Donc, bref, il n'y en aura peut-être pas tout de suite. Il va falloir faire sur ces détails-là pour le moment. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? Ils vont donner un catalogue de jeux, puis ça va être ça. Hein? C'est pas mal ça. Ouais, ben, à suivre, mais peut-être un peu beaucoup de bruit pour rien, comme on pourrait dire.
Oui, effectivement.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mais un autre sujet qui t'intéressait cette semaine, Raph, ben c'est quand même une triste nouvelle, mais on essaie de la twister pour la rendre un petit peu plus cute. La retraite de Bruce Willis t'a inspiré une belle liste nostalgique de ses meilleurs films.
Ben oui, écoute, Bruce Willis qui a mis fin à sa carrière d'acteur cette semaine, là, c'est un message signé par sa famille, en fait, sur les réseaux sociaux qui ont annoncé la nouvelle. Bruce Willis qui souffre d'aphasie, donc trouble à s'exprimer autant à l'écrit co-parler, mais aussi des troubles de compréhension du langage. Donc, c'est quand même très triste pour Bruce Willis. Bruce Willis, bon, qui a eu certaines, comment on dirait ça, des dernières années dans sa carrière, peut-être un peu plus tumultueuses, mais bon, tout commence à faire un peu de sens, un peu plus de sens, là, on pourrait dire, entre guillemets, que c'était peut-être pas juste une passe de cash, comme on dit, les derniers films un peu plus boboches, mais c'était peut-être aussi parce qu'il y avait besoin de films qui avaient moins de dialogue, en fait, parce que c'était rendu plus, plus complexe. Mais bon, depuis mercredi, il y a quand même une pluie d'hommages là, qui ont été faits à l'endroit de l'acteur d'action. Là. On pense à Haley Joel Osment, entre autres, là, qui jouait le petit gars dans Le Sixième Sens, ben, qui est encore acteur là, aujourd'hui, dans la trentaine. Là, il y a encore le même visage dans enfant, mais sur un frame d'adulte. C'est assez particulier.
Oui, c'est spécial.
Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais Osment qui a offert ses hommages. M. Night, Shyamalan aussi, qui avait dirigé Willis dans Le Sixième Sens, Unbreakable, Glass plus récemment, a offert des hommages aussi. Bref, c'est quasiment un peu... C'est une genre d'homélie là, à laquelle on assiste en ce moment. Là. Bruce Willis qui n'est pas décédé, mais bon, la carrière d'acteur qui a un peu l'est, donc tout le monde rend hommage à Willis. Puis on l'a fait un peu. Oui, ben c'est ça. Puis on l'a fait un peu à notre manière aussi. Là, on ne rentrera pas trop dans les détails. Mais bon, vous irez voir notre liste sur le site de Paix sur Start. On est allé faire un petit compte-rendu de la carrière de Bruce Willis. Une carrière en 10 rôles marquants. Je tomberai pas dans les gros détails. Je peux en énumérer quelques-uns. On pense à Die Hard, entre autres, hein, son rôle de John McClane en 1988.
Un film de Noël.
Un des meilleurs films de Noël qui existent, hein, on va se le dire. Mais en fait, ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est que Bruce Willis n'était vraiment pas reconnu comme étant un acteur de film d'action avant Die Hard. On le voyait vraiment plus comme une figure de la comédie. Et c'est un film, Die Hard, qui avait été difficile à faire, entre guillemets, parce que on n'arrivait pas du côté des producteurs à faire passer le choix de Bruce Willis. Et au départ, dans les focus group et compagnie, quand les gens venaient voir le film, qui était fait, mais qui n'était pas sorti encore au grand public, les spectateurs avaient des gros doutes avant de rentrer en salle en disant, ben voyons donc, un film d'action avec Bruce Willis. C'est quoi cette niaiserie-là? Et Bruce Willis avait réussi à, comment on dirait ça, carrément repenser sa carrière avec ce film-là parce que ça a hyper bien marché. Si vous avez déjà vu Die Hard, c'est un grand film d'action.
Oui, c'est de l'action.
Ouais.
Puis c'est un film qui a redéfini le genre un peu parce que on est parti d'acteurs avec des bras gros comme des troncs d'arbres, genre Schwarzenegger, Van Damme, Stallone à l'époque, et on est allé chercher un acteur, c'est ça, qui a de l'air un peu d'un gars de tous les jours, tu sais, un policier parmi tant d'autres. Puis écoute, ça a ouvert une porte immense à ce genre de film-là par la suite. Tu sais, on se demande si Keanu Reeves aurait pu devenir une star des films d'action dans un monde sans Bruce Willis. Liam Neeson, tu sais, c'est pas Schwarzenegger non plus, mais... Willis qui avait réussi à défricher un peu ce chemin-là avec Die Hard. Mais Bruce Willis qui a fait sa place aussi du côté des drames également. On peut penser à Pulp Fiction, qui est un drame, un film d'action, un film de gangster qui est un peu tout, mais quand même qui est un peu plus un film d'auteur. Donc, 6 ans après Die Hard en 94, film de Quentin Tarantino, Bruce Willis qui incarne...
Un long film.
Ouais. Un très long film et chaque minute vaut la peine, en tout cas, du moins à mon avis. Donc, Bruce Willis qui joue le boxeur Butch Coolidge, qui est comme interprété dans une affaire de paris sportif avec le crime organisé, en fait, qui le paye pour perdre un match. Puis finalement, il perd pas ce match-là. Puis Ensuite, il se fait poursuivre et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais bon, Bruce Willis qui avait prouvé un peu avec Pulp Fiction qu'il était capable de jouer autre chose que des comédies et maintenant des films d'action et de pousser plus loin son jeu d'acteur. Quelques années plus tard, bon, c'est une tendance qui s'est poursuivie avec Le Sixième Sens, entre autres, où est-ce qu'il jouait le rôle d'un psychologue pour enfants qui faisait la connaissance d'un jeune garçon qui, ben, voit des personnes mortes. Bon,
il voit des fantômes.
C'est pas un punch, là.
Et bref, c'est pas ça, non, c'est pas ça le punch.
C'est pas ça le punch. Il y a un punch. On le dira pas. Écoute, c'est un film qui a au-dessus de 20 ans, mais bon.
Mais ce que je trouve fascinant là, de ce film-là, petite parenthèse, là, puis tu sais, M. Night Shyamalan, on aime ça rire de lui un peu parce que ses œuvres après Le Sixième Sens n'ont pas été toutes extraordinaires. On pense d'ailleurs à The Happening, qui est comme un film avec Mark Wahlberg.
Ben oui.
Totalement ridicule.
Puis le pire The Happening, juste une mini parenthèse à ta parenthèse, là, mais je suis allé le voir au cinéma à l'époque, pour de vrai, genre les 15 premières minutes, c'est bonkers. Moi, j'avais trouvé ça fou, là. Mm-hmm. C'est comme une espèce de, tu sais, un peu film d'horreur. C'est oppressant. T'es comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est effrayant. Puis là, après ça,
ça devient complètement stupide.
C'est la faute des arbres.
Oh, ben, c'est le vent.
C'est ça. Que, bref, excuse-moi.
Mais c'est ça, pour en revenir à The Sixth Sense puis M. Night Shyamalan, dans le fond, ce qui était intéressant dans le temps, puis c'est Bruce Willis qui a fait partie beaucoup de cet effet-là, c'était l'effet twist, tu sais, le film avec une twist à la fin. Bon, c'était pas inconnu, mais ça a vraiment été comme, c'était comme un mastering de ce style-là, puis ça a été parodié, ça a été, tu sais, comme il y a eu des skits là-dessus, c'était vraiment comme un truc viral, c'est un truc viral dans le temps. Puis Bruce Willis, je trouve que ça l'a vraiment... C'est pas que sa carrière était comme plate, mais ça l'a vraiment reboosté sa carrière, je trouve, peut-être auprès d'un public peut-être un peu plus jeune qui avait peut-être pas grandi avec ses films d'action, qu'il a rencontré sous un œil peut-être plus dramatique, psychologique, parce que The Sixth Sense, ça a vraiment été un film viral, puis qui a récolté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour un faible budget quand même. Ben, faible budget pour un film hollywoodien. Fait que je trouve que c'était un beau moment dans sa carrière, Bruce Willis, The Sixth Sense. C'est comme un point tournant, je trouvais.
Oui, c'est ça. Tu sais que c'est un film où est-ce qu'on pouvait le prendre au sérieux. Tu sais, il n'y a aucune blague, on s'entend, dans Le Sixième Sens, là, zéro. Puis, par le passé, les films de Bruce Willis, bon, ben écoute, il y avait évidemment quelques drames au travers, là, mais quelque chose de premier plan comme ça, qui mettait ses talents d'acteur à l'avant, ben il n'y en avait pas tant. Puis, tu sais, il y avait toujours un petit côté un peu drôle à ses films,
oui.
Pas, mm-hmm. Que ça soit dans l'action avec Die Hard. Oui, écoute, on peut penser, bon, évidemment, Pulp Fiction, dans la même période, tu as Le Cinquième Élément en 97 de Luc Besson, mm-hmm. qui est un film d'action, mais qui est aussi vraiment une comédie, on s'entend. Là,
ouais.
Donc, bref, tu le prenais au sérieux, mais en même temps, tu sais, il y a eu 12 Monkeys, écoute, en 95, mais qui était peut-être un petit peu plus dans le paradigme de la science-fiction, tu sais, plutôt que le drame. Fait que bref, c'est ça, ça a vraiment ajouté une autre corde à son arc, et quand même toute une corde dans Le Sixième Sens. Ben, l'année qui a suivi, il a recollaboré avec M. Night Shyamalan dans Unbreakable. Mm-hmm. Où est-ce qu'il jouait un... Tu sais, c'est... On l'a pas assez vu comme ça à l'époque parce qu'il n'y avait pas tellement de films de super-héros. C'était pas comme aujourd'hui, mais c'était vraiment un film qui revoyait complètement le concept du film de super-héros parce que là-dedans...
Oui, le demi-temps, genre.
Oui, comme un surhomme, entre guillemets, parce que bon, c'est un homme qui se rend compte qu'il a des pouvoirs surhumains après avoir survécu à un déraillement de train, puis lui, il n'a aucune blessure. Le déraillement, bon, c'est de quoi d'hyper meurtrier dans le film. Puis lui s'en sort, absolument rien. Puis, on venait jouer un peu avec cette idée-là de super-héros, un film qui serait quasiment à la limite plus pertinent, je crois, aujourd'hui que dans les années 2000.
Oui. Là. Ça marche.
Oui, puis qui va peut-être reprendre un peu de traction là, ces jours-ci, bon, avec la retraite de Bruce Willis. Mais bref, les années 90, là, ça a été quand même une période excessivement faste là, pour Bruce Willis. Là. On peut penser, bon, il y a les suites de Die Hard, puis là, t'ajoutes là-dedans Pulp Fiction, t'ajoutes Le Cinquième Élément, t'ajoutes 12 Monkeys, t'ajoutes Le Sixième Sens, t'ajoutes Armageddon en 98.
Oui, c'était gros, ça!
Ouais. Écoute, c'est ça, c'est pas nécessairement un bon film. C'est un film assez risible. La performance de Willis est quand même aussi un peu risible.
Oui.
Mais tu sais, c'est marquant. Puis I don't want to miss a thing.
Non, mais j'ai une confession à faire. Armageddon, à chaque fois que j'écoute le film, je pleure comme une madeleine. Mais à chaque fois que j'écoute le film, quand il dit au revoir à sa fille, là, je pleure comme une madeleine. Là. Mais c'est...
En même temps, le film est comme conçu de même.
Ouais,
c'est comme du comment on pourrait dire ça, du tear engineering.
Là. Ah oui,
tear baiting.
Oui.
Oui, oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme vraiment tous les ingrédients sont là. Mais en tout cas, bref, il y a eu Armageddon en 98.
Oui, ah. Ben oui.
Il y avait comme un grand duel entre Deep Impact puis Armageddon. Mm-hmm. Puis moi, j'étais allée voir Deep Impact. Fait que j'ai comme stické de ce bord-là. Puis j'ai pas vu Armageddon avant. Ça fait quand même quelques années seulement que je l'ai vu pour rire.
Ouais, je peux pas me remettre dans le contexte. J'allais te demander pourquoi, tu sais.
Ouais, c'est ça, c'était pour rire.
Mais oui, c'est ça, t'es soit team Deep Impact ou team Armageddon en ce temps-là, c'est vrai.
Puis moi, j'étais Deep Impact.
Moi, j'étais team Armageddon parce que Bruce Willis était placardé sur mes murs pendant mon adolescence.
Oh yes.
Oh! Une vraie fan.
Fait que bref, c'est ça. T'sais, on a quand même notre génération grandi avec Bruce Willis. Tu sais, veux pas, là, t'allais au cinéma dans les années 90, là. Quelle période incroyable. Là.
Oui.
T'sais, chaque année, tu pouvais aller voir un film de Bruce Willis, mais attendez, là, un bon film de Bruce Willis reste chaque année, tu sais.
Ouais.
T'sais, c'est consécutif, là, tu sais, j'en parlais il y a quelques minutes, là, mais tu regardes ça, là, d'un point de vue ligne du temps, là. Pulp Fiction, 94. L'année d'après, c'est 12 Monkeys.
Ouais.
96, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il a fait. Écoute, il a peut-être pris des vacances, non, il a sûrement joué dans quelque chose, je l'ai pas dans la liste, là. 97, Le Cinquième Élément, là, tu te dis, il va slacker un peu. 98, Armageddon. Bon, ça, on peut discuter si c'est un bon ou un mauvais film, mais bon. 99, Sixième Sens. 2000, Unbreakable, c'est bang, bang, chaque année, là.
Mm-hmm.
Des gros hits.
Des gros hits. Dans les années 2000, ça a été un petit peu plus tranquille. Il y en a eu quand même, mais bon, peut-être moins des succès critiques. On pense, bon, Sin City en 2005, quand même, succès un peu culte dans le monde geek. Puis au début des années 2010, il y a eu une espèce de petit revival, on pourrait dire, pour Bruce Willis dans des rôles un peu plus de qualité. Moonrise Kingdom en 2012, donc fait équipe avec Wes Anderson, qui, on va se le dire, aime ça avoir une espèce de brochette weird d'acteurs dans ses films, mais ça marche toujours. Puis personnellement, je suis un immense fan des espèces d'anti-casting de Wes Anderson. Quentin Tarantino aussi, qui a l'habitude un peu de ces anti-castings-là. Puis bon, Moonrise Kingdom, t'as Bruce Willis, mais qui est avec Bill Murray, Frances McDormand, Edward Norton, t'as Tilda Swinton là-dedans. C'est un peu weird, mais bon,
Bruce Willis,
qui a son charisme, encore une fois, qui transparaît immensément dans ce film-là. Et la même année, 2012 aussi, t'as Looper, qui était un espèce de retour à la science-fiction de qualité pour Bruce Willis, donc réalisé par Rian Johnson, qui a réalisé aussi le mal-aimé Les Derniers Jedi, donc Star Wars, le huitième chapitre. Mais bon, Looper, très bon film où est-ce que Bruce Willis combat une version jeune de lui-même qui voyage dans dans le temps où lui est envoyé dans le passé puis se fait traquer par une version jeune de lui-même qui est incarnée par Joseph Gordon-Levitt. Donc,
ça aussi. Qui était comme dans un gros hype dans son moment, lui. Là, c'est ça, Joseph était vraiment dans son gros moment Inception puis tout.
Ouais, c'est ça exactement, où est-ce qu'il perçait un peu le cinéma plus mainstream. Donc bref, pour plus de détails, vous irez voir la liste sur paysurstart.com. Mais quand même, Bruce Willis a eu brièvement sa catégorie au Razzie Awards, le gala qui récompense les pires films. Bon, ça a été retiré là il y a quelques heures, cette catégorie-là, bon, par respect pour Bruce Willis.
Un beau geste, quand même.
Oui, c'est un geste d'une classe. Je lisais un site web qui disait que c'était un geste d'une classe assez rare pour les Razzies.
Effectivement. C'est ça, mais absolument.
C'est ça. Mais bref, la carrière de Bruce Willis dans les dernières années, qui n'a peut-être pas été resplendissante, mais quand on creuse un peu, c'est malhonnête de dire que Bruce Willis n'a pas joué dans des bons films. Là, Bruce Willis a joué dans ce qu'on pourrait dire certains des meilleurs films des dernières années, des 20, 30 dernières années. Donc, bref, on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et d'ici à avoir d'autres nouvelles, on va regarder des films de Bruce Willis de notre côté.
Totalement.
Oui, ça m'a donné l'idée en fin de semaine, là, peut-être me taper un bon petit 12 Monkeys, qui est comme un gros, gros film, je trouve, de Bruce Willis, mais qu'on oublie souvent, on dirait, parce que c'est tellement bizarre comme film, là, c'est très étrange, c'est très weird, puis tu sais, Brad Pitt aussi qui est là-dedans, que lui, il est très, très weird dans le film aussi, c'est deux belles performances, fait que... je pense que c'est celui-là que je vais choisir pour cette fin de semaine-ci. Je vais jouer à Kirby après, comme ça, je vais me
balancer.
C'est ça, rééquilibrer le
scénario. C'est ça.
Probablement. En attendant mon code pour Lawn Mowing Simulator.
Ah, c'est ça.
Merci beaucoup, Raph.
Plaisir.
Merci beaucoup, Raph et Christine, pour ce bel épisode de Pain sur Start.
Merci à toi.
Yes, et puis si vous voulez écouter les autres épisodes du podcast de Pain sur Start, vous pouvez les écouter partout où est-ce qu'il y a des podcasts. Si vous voulez lire nos articles, ça se passe sur le paysurstart.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, c'est Pain sur Start, on est facile à trouver. Vous pouvez d'ailleurs là-bas nous poser des questions ou nous envoyer des suggestions de sujets qui vous intéressent, des trucs comme ça. On est très rapide pour répondre. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous revoit la semaine prochaine avec un autre épisode. Bye!